Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine. Time Sport sur Beurre FM. Votre émission quotidienne sport de 20h à 21h. C'est pas les grèves qui allaient nous mettre en difficulté, voilà, malgré les soucis rencontrés. Et donc, beaucoup de courage pour toutes les personnes qui galèrent dans les transports parce que ça a été extrêmement compliqué. Nous, en tout cas, ça nous a pas empêché d'être présents ce soir. Pour m'accompagner, Monsieur Vivien Bouillibanguet est avec moi ce soir. Lui, déjà en plateau, il est déjà prêt. Il a un super costard. Là, t'es extrêmement beau, Vivien. Comment ça va?
Là, j'ai une tenue d'entraîneur. Bah, bonsoir, Claude. Bonsoir à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Et... Ah, j'ai la tenue de coach. Hein. On est déjà prêt pour de nouvelles opportunités.
Attends, coach de quoi?
Oh, un peu de. Je suis un peu mutual.
Sois pro, choisis une discipline, s'il te plaît.
Non, moi, c'est. Je reverrai le basket quand même. Donc, je resterai dans les gymnases. Okay. Auprès des jeunes et ça ira très bien.
Le 18e arrondissement. Voilà. Cher à Vivien, on sait qu'il a. Il est souvent sur les. Bah, dans les différents gymnases, hein, différents complexes, pour regarder un petit peu les différentes performances, différents projets. Hein, ça faut. On le dit pas assez, mais c'est vrai que t'œuvres beaucoup, en tout cas, dans cette région à fort potentiel, mais ça traîne un petit peu.
Ça traîne un petit peu.
Ok. Alison nous rejoindra également. Elle est sur la route. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Et puis Kamel qui doit nous rejoindre également. Et puis on a notre boxeur, notre invité qui est avec nous ce soir. Mais Joub, avec nous, comment ça va?
Ça va, merci. Ça
fait plaisir en tout cas de vous revoir de nouveau. Ouais.
Je vous remercie de m'accueillir, vous êtes bien aimable, c'est avec toujours un plaisir pour moi.
Avec le coach, c'est
avec
ça?
Le grand maître Freddy Lepine.
Ouais, enchanté, coach.
Grand, pas en taille, hein.
Le talent.
Voilà.
Le micro, coach.
Je fais même pas 1m70.
Ouais, mais
j'ai passé les 70 ans.
Moi je fais 1m90, je tiens pas debout, donc on y reviendra en tout cas avec vous dans la deuxième partie de l'émission. Au menu de ce Time Sport ce soir, on parlera bien sûr Conférence League avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé face à Karabakh hier soir à l'Orange Vélodrome. Le Barça qui n'a pas été capable de faire la différence face à une belle équipe, attention, hein, du Napoli, un but partout. Et puis dernier test du LOSC avant la rencontre face à Chelsea, Lille qui reçoit le Football Club de Metz au Grand Stade. Et puis enfin la France qui se mobilise pour Kylian Mbappé. On en reparlera en toute fin de programme. Allez, on passe à la suite.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux, Vivien Bouillibanga. Je me permets de dire ton nom de famille. Il a été demandé par beaucoup de socios. L'Olympique de Marseille qui s'impose hier. Je ne sais pas si tu as suivi la rencontre face à une équipe accrocheuse de Karabakh.
Déjà, premièrement, moi, je fais plutôt partie de ceux qui se disent que la Conference League, c'est pas juste une C4 comme on s'est beaucoup moqué. C'est pas juste une voiture. C'est une vraie Coupe d'Europe à gagner, ce qu'on a trop peu fait en France. Donc moi, ce que j'attends de l'OM et de Rennes, c'est d'essayer de faire le plus beau parcours possible dans cette Conference League. Donc hier, moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai vu un OM, je dirais, qui a été efficace et qui a été aussi très bon gestionnaire. Parce que, par exemple, la première mi-temps, on voit un OM qui se retrouve à mi-temps à 2-0. Je trouve que nos Olympiens s'en sortent quand même plutôt bien.
Extrêmement bien payé. Hein.
Voilà, parce qu'ils ont même souffert les 20 premières minutes. Et puis, ils ont un petit peu plus pressé. Ils ont un petit peu mis plus d'intensité, ce qui a permis à Milik de débloquer son compteur. Mais malgré tout, Marseille s'en sort super bien. Et à la mi-temps, et j'aurais même dit à la fin du match, parce que Karabakh a vraiment eu des belles opportunités tout au long du match. Enfin, on peut parler de Mandanda, qui a été vraiment très, très bon. Pour moi, un des trois meilleurs Olympiens hier soir, par exemple.
Ouais.
Pour dire, et comme on dit, quand un gardien est parmi les trois meilleurs joueurs, c'est qu'il a eu beaucoup de boulot et ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Je pensais notamment à trois situations assez nettes. Mais alors, en compte tenu du fameux changement cette saison, le but extérieur qui ne compte plus en Coupe d'Europe, c'est là où vraiment le troisième but de Payet dans le temps additionnel, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a presque changé la physionomie de Marseille pour le retour. Et avec deux buts d'écart, c'est quand même vraiment bien parti. Mais attention à cette équipe de Karabakh. Alors,
une équipe joueuse, hein.
Voilà, même si on sait que nos auditeurs sont très fouteux pour une grosse partie, c'est Karabakh, c'est quand même une équipe qui, bon, qui survole son, son championnat d'Azerbaïdjan, bien sûr, qui est moins fort que nôtre. C'est pour rappeler, il y a que 8 équipes là-bas. C'est bien sûr, c'est moins relevé actuellement. Ils ont 10 points d'avance sur Gotaga. Donc, voilà, leur titre, ils dominent un peu comme le Bayern en Bundesliga parce qu'ils ont gagné 7 des 8 derniers titres. Mais en, en Coupe d'Europe, ça fait quand même 3 ans qu'ils, que je dis qu'ils mettent un peu le nez à la fenêtre. C'est-à-dire que.
Ils avaient mis en difficulté, je crois, l'AS Saint-Etienne.
Et l'Atlético Madrid, l'année où l'Atlético gagne l'Europa League en 2018. Donc, la phase de poule 2017-2018, ils avaient même réussi à accrocher l'Atlético. Alors, cette année, ils ont réussi en phase de poule à faire un 0-0 contre Bâle. C'était plus difficile au retour. Ils ont un petit peu pris le bouillon, mais voilà, il y a de la qualité technique. Il y a le profil du coach. C'était un ancien, un peu une légende du pays parce que c'était un ancien attaquant qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Et son profil du coach, c'est que il disait qu'il aimait bien s'inspirer de Guardiola et du Barça. Donc, bien sûr, on est encore très très loin, mais en termes d'intention,
dans l'idée en tout cas,
dans l'idée, c'est ça. Dans, c'est ouais. Voilà, c'est on voit tout au long du match hier soir. C'est cette équipe, je trouve qu'elle a. Qu'elle a proposé quelque chose, les sorties de balles, par exemple, c'était assez
fort. Ouais, grosse conservation de balles.
Voilà, c'est. Limite, ce qui les plombe, c'est qu'ils ont fait des grosses fautes défensivement, notamment le deuxième but. Enfin, ressortir comme ça dans l'axe, c'est presque interdit. Donc, c'est prometteur, mais voilà, c'est. Donc, c'est pour dire que voilà, Marseille n'a pas battu n'importe qui, comme on pourrait le penser si on se fie juste au nom de l'équipe en se disant.
L'OM a fait le boulot sur le score de 3-1 grâce à donc à des buts de Arek Milik, 41e, 44e, but de Payet, 92e contre un but de Kadi à la 85e. Donc une équipe qui a été remodelée un petit peu. Hein. Payet a commencé sur le banc, Guendouzi, des joueurs titulaires habituellement comme Saliba également au repos, Mandanda qui a retrouvé la cage. On peut supposer qu'il gardera la cage sur cette compétition. Donc il n'y a pas d'inquiétude, Vivien, à avoir sur le match retour à Marseille de rester plutôt vigilant, solide.
Oui, en étant vigilant. Ben, en allant, moi, je dirais pour marquer. Enfin, pour moi, la meilleure façon d'être sûr de passer, c'est de vraiment de marquer au moins un but à l'extérieur. Même s'il n'y a plus cette règle, je pense que si l'OM ouvre même un seul but là-bas. En Azerbaïdjan, pour moi, ça suffira à faire le boulot. Même si la défense marseillaise est un peu plus mise en difficulté ces dernières semaines, je vois pas l'OM prendre un bouillon comme ils l'ont pris à Galatasaray, par exemple, en phase de poule d'Europa League. Donc, il faut rester sérieux, appliquer normalement.
Et aller en huitième de finale.
Voilà
de...
ce qui nous dit qu'on est en huitième. Voilà, ça nous rapproche. Ça nous rapproche des demi du Final Four, comme on dirait
bien
dans
sûr,
les sports US.
Bien sûr, je rappelle un peu ce que tu as dit au tout début, Vivien, c'est que au niveau du football français, on met beaucoup en avant la Ligue des Champions, et c'est tout à fait normal, c'est la compétition la plus prestigieuse, avec les plus grands clubs, etc., la grosse histoire. Mais sur l'histoire de la Coupe d'Europe de football, que deux trophées hein, pour la France, faut pas l'oublier, c'est l'OM en 93 justement face au Milan AC et c'est le Paris Saint-Germain face au Rapid de Vienne en 96. C'est tout, Vivien, c'est tout, on a tendance à l'oublier ça.
À 26 ans, oui, ça commence à être une disette, c'est un peu long, donc ce serait bien que ça tombe. On espère bien sûr qu'en C1 que le Paris Saint-Germain aille chercher la C1, mais c'est pas interdit de gagner la C3, la C4, donc pour moi tout ce qui peut être pris, il faut le jouer en tout cas. Et puis pour l'OM, c'est faut pas oublier, c'est cette année je pense que Marseille avait une vraie carte à jouer en Coupe de France, notamment après l'élimination et de Lyon et du Paris Saint-Germain, mais maintenant qu'il y a eu un petit peu cet échec contre Nice, gagner une Conference League et par exemple terminer deuxième du championnat, pour moi ce serait une vraie saison réussie pour Marseille.
Oui, ça reste une Coupe d'Europe, même si au départ c'est vrai qu'il y a eu cette création cette saison, donc voilà, un petit peu moqué au départ, mais si demain t'arrives en quart ou en demi de la C4, ça reste voilà un quart de finale, une demi-finale de Coupe d'Europe, ouais. Et ça compte au palmarès européen. Ben,
exactement, puis il y a quelques noms, j'allais dire prestigieux du foot européen dans cette Coupe, donc je trouve que le plateau est pas si mal. Alors forcément, c'est la première année, c'est que la troisième compétition, on va avoir tendance à dévaluer, mais pour moi... on voit que même si Sampaoli a fait tourner, et il a eu raison parce que quand même il y a quand même 11 matchs à jouer dans ce match de février pour Marseille, on voit quand même que voilà, ça permet à Milik de se relancer. ça permet à d'autres aussi de prendre des sensations. Et puis certains, quand ils sont entrés, comme Payet, on a vu que malgré tout, ils ont réussi à être décisifs. Ce qui, par contre, du côté de Sampaoli, on pourrait parler beaucoup parce que souvent, c'est ce qui fait un peu diviser ce qui divise les gens, c'est-à-dire son coaching. Alors, Sampaoli, moi, je trouve que j'aime vraiment que chaque match, il nous met un petit peu une surprise en termes de placement, par exemple. Sampaoli, c'est comme si.
Qu'est-ce qui t'a surpris là, par exemple, sur ce sur le match
la position de Camara que j'avais plutôt l'habitude de voir dans l'axe ou alors.
Il a replacé Pape Gueye dans l'axe devant la défense et Camara dans la position un petit peu hybride qu'occupe Valentin Rongier.
Exactement.
Position de milieu de terrain lorsque l'OM a le ballon et position d'arrière droit.
Exactement.
Et ça a été un échec et d'ailleurs il a changé. Il s'est réadapté aussi.
Mais pour le coup, Pape Gueye, je trouve qu'il fait un très bon match aussi. Mais c'est vrai qu'il a su s'adapter sans Paoli. Donc malgré tout, c'était. En fait, moi, si je résumais sans Paoli, j'ai l'impression que c'est un coach qui aime bien des joueurs un petit peu multifonctions. Est-ce que peut-être c'est pas une façon un peu de tenir le vestiaire, c'est-à-dire il y a des joueurs, il exclut pas de les parfois de les challenger de les
après ce qui est important, peut-être un petit peu coach Vivien au basket, ouais. Mais un peu plus au football, ouais. C'est toujours important quand même d'avoir des joueurs capables de s'adapter à différentes animations.
Exactement.
Faut savoir qu'on le dit pas assez, il y a l'animation lorsque tu as le ballon,
ouais.
Et l'animation lorsque tu n'as pas le ballon.
Bien
et
sûr.
C'est forcément deux dispositifs complètement différents et c'est vrai que lui joue beaucoup là-dessus parce que c'est extrêmement important, ça demande un gros travail, tu sais, des fois tu prends les par exemple sur certains matchs le secteur offensif du PSG, ça attaque, par contre ça revient pas forcément, donc ils restent à peu près dans la même position sauf que leur équipe n'a pas le ballon et c'est vrai que c'est un travail qui doit être fait pour moi à mon niveau, je pense que c'est un très bon raisonnement. Et un autre point qu'il faut rajouter, c'est qu'il l'a dit en conférence de presse cet après-midi, c'est que lui, ce qui est important aussi, c'est la gestion des matchs. Il sait qu'il a un calendrier extrêmement important.
Très chargé.
Donc même s'il y a certains joueurs, on a vu Milik s'énerver à sa sortie, il sait qu'il a une gestion de joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, de confiance. Les matchs vont se rapprocher. Il y a déjà, je crois, les matchs qui vont avoir lieu, si je me trompe pas, la semaine prochaine.
Oui, le retour, c'est déjà la semaine prochaine.
Donc avec un voyage qui est très long, etc. Ouais. Il y a le match ce week-end. Donc oui, il y a toute cette gestion Sampaoli. Critiqué ou pas, il est deuxième avec l'OM, il est en course pour...
On peut avoir des regrets quand même pour l'Europa League et la Coupe de France, mais à part ça, deuxième, si Marseille arrive à tenir ce duel, peut-être pour la deuxième place contre Nice, et si ça fait un beau parcours en Conference League, moi je pense que la meilleure façon pour Sampaoli finalement, ou comme n'importe quel coach, de tenir un vestiaire, c'est toujours de faire des résultats. Mmh. Et là, les résultats, la dynamique est quand même plutôt bonne malgré cet échec de Nice. Donc pour moi, non, les voyants sont quand même au vert en ce moment, moi je trouve, pour l'OM. Alors il est assez critiqué Sampaoli, mais je trouve que c'est pas si mal. Faut pas oublier que, par exemple, l'an dernier, à la même époque, limite, il avait la commanderie qui était en feu, par exemple.
Ouais, faut pas oublier
si on regarde d'où on vient, côté Marseille, on n'est pas si mal.
C'est vrai qu'il y a eu cette frustration, avec cette défaite face à Lyon, alors que l'OM menait 1-0, cette élimination en Coupe de France, comme tu l'as dit, qui est extrêmement importante pour le club olympien.
Ça fait des années.
Ça fait depuis 89.
C'est pas tombé,
pas tombé. Mais faut pas oublier, comme tu l'as dit aussi, qu'il y a un an, jour pour jour, quasiment, il y avait le feu au centre d'entraînement Louis Dreyfus et l'effectif a été renouvelé également. Il y a 80%, on parle de joueurs qui ont du mal peut-être à s'adapter à la Ligue 1. Là, il y a eu quand même une nouvelle équipe et pour autant, ils sont deuxième de Ligue 1. Merci Vivien, on se retrouve juste après la pub.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre dernière émission de la semaine. Et oui, même avec les grèves, Vivien a réussi à être présent aussi bien que nos invités qui sont là, qui sont maintenant en plateau. Alison, par contre, nous rejoint. Elle doit être peut-être
à faire l'entrée comme Payet. Elle va mettre le but décisif. C'est une titulaire. Elle nous laisse un petit peu acquérir du temps de jeu, etc. On sait que quand elle va arriver, elle va tout casser.
elle va faire la différence. Ouais. Et puis bah Kamel par contre qui s'est perdu hein. Là malheureusement, je sais pas, Giovanni à la réalisation que l'on remercie en tout cas animé à l'émission. Kamel et tous abonnés absents, on salue toutes les personnes qui écoutent l'émission de Time Sport. Allez, on passe aux invités.
Time Sport. The special one.
J'ai un anglais catastrophique. On est avec donc notre boxeur Mijoub qu'on avait reçu il y a de cela quelques mois. Vous étiez seul, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Mais là, vous êtes très bien entouré.
Ça va, ouais.
Comment ça va?
Ouais, très bien entouré avec mon maître Freddy Lopin.
Ouais.
Et mademoiselle Cassata.
Ouais. Un plaisir.
Ouais.
Ma première question, comment ça va depuis la dernière fois où ça avait été un petit peu, ça avait été un peu tendu quand même.
Non, hein. Ça va, ça s'est calmé un petit peu.
Ouais.
Ça s'est calmé un petit peu.
Ouais.
Ça va très
jusqu'à,
bien.
Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont un petit peu les.
Bah écoutez, moi j'ai participé à un championnat du monde le 24 décembre en Tunisie, un championnat du monde WBO avec Moussa Konaté, à qui je voudrais faire un petit salut.
Ouais.
Voilà. Donc, moi j'ai perdu ce combat par de l'arbitre. Voilà. Par la suite, la WBO a déposé une réclamation.
D'accord. Pour quelle raison?
Mais écoutez, pour plusieurs facteurs défaillants un peu. Il y a eu des problèmes de poids, des problèmes d'organisation, un arrêt de l'arbitre injustifié. Donc, voilà. J'ai porté ce. Il y a une réclamation qui a été portée. Et la décision elle m'a été rendue la semaine dernière.
D'accord.
Donc la WBO m'a déclaré officiellement champion du monde.
Voilà. Ah ben bon.
Ouais, c'est gentil.
Champion du monde.
C'est gentil.
C'est gentil. Champion, champion du monde.
C'est gentil.
Félicitations.
Ouais. Bah disons que je suis plus un champion parce que j'ai plus respecté les règles que j'ai
le
battu Moussa.
Déjà, parce qu'il y avait 10 kilos de trop. Il y avait 10 kilos de trop. Faut préciser
10
que
10 kilos
même,
de trop quand même.
Ouais, c'est énorme. Il faut préciser que Majoub, quand il est arrivé, il n'avait pas de coach. Donc un jour, il m'a téléphoné par l'intermédiaire de la famille Pachi, c'est les anciens du Muay Thai. J'ai dit, bon, bah, écoute, je vais m'occuper de toi pendant 3 mois. Donc on a fait une préparation. Il y avait plein de choses à revoir au niveau problématique et technico-tactique, dont le travail en ligne, les directs, etc., qui ne se jettent pas, qui ne sacrifient pas, qui puissent toucher, ne pas être touchés. Donc on a fait toute une préparation physique, psychologique et tactique. Ça a payé, sauf que moi, je ne savais pas qu'il y aurait 10 kilos de plus. Donc, c'est bien qu'il soit venu me voir. Parce que moi, j'ai plus de 70 ans. Mon métier, c'était intervenant boxe en milieu carcéral.
D'accord.
J'ai fait 25 ans à Fleury-Mérogis.
OK.
Donc, c'était mon métier comme éducateur sportif sans être surveillant, ce qui est assez rare. Mmh. Donc, quand j'ai des cas désespérés comme le sien, je m'engouffre dedans.
Parce que c'était un cas désespéré.
Bah oui, parce qu'il n'est pas de coach. Donc, il s'ouvrait tout seul dans sa cave. Ça ne se fait pas, ça.
Ouais. Mais il préférait
ça, mais après, tu le sais, toi, qui t'occupes du foot, moi, j'ai plusieurs diplômes d'État. J'ai passé des diplômes d'État supérieur, j'ai passé des grades aussi. Et après, il y a toute une préparation, il y a toute une connaissance qu'on met en avant pour le boxeur. Mais tout seul, c'est impossible qu'il puisse se préparer. Mmh. Si, dans les films, et encore. Si, à la Rocky, mais il y avait quand même un vieux coach.
Ouais. Même dans Rocky, c'est quel vieux coach hein.
Mohamed Ali, il avait qui comme coach? Gus D'Amato. Un vieux papy qui était très très fort. Mm. Donc les papys sont encore intéressants.
Ils font de la résistance. Vivien.
Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu de votre préparation? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt beaucoup entraîné en France, à l'étranger? C'était quoi un petit peu votre quotidien?
C'était en France à Ivry.
D'accord.
Je le voyais 3 fois par semaine, mais le résultat.
À Ivry?
Ivry.
À Ivry.
Dans l'Essonne, 91.
Dans l'Essonne, 91.
Le résultat, je lui c'est une programmation de préparation physique à base de poids de corps. Parce que moi, je pensais qu'il y avait un certain poids respecté. Il l'avait déjà. Donc, il ne fallait pas qu'il monte de catégorie. Et donc, c'est à base de traction et tout. À base de shadow. Shadow, c'est la boxe dans le vide. Et après, try de leçon. Ils sont, comme moi, je sais que la personne qui rencontrait, je connaissais un peu le profil. Ce que je voulais, je savais que c'est un frappeur quand même, faut pas rêver, Konaté. Donc ce que je voulais, c'est à la leçon, toucher, il n'est pas touché. Logiquement. Ou s'il est touché, il fait une remise, mais qu'il a un bon jeu défensif. Donc c'était une programmation assez longue. Et il a fallu que je revoie un petit peu ses tactiques, parce que lui, c'est plus un rentre-dedans. Oui, lui, ce qu'il veut, c'est aller au charbon, parce qu'il y a la fierté, l'ego. Mais l'ego, il faut savoir le mettre de côté pour un résultat toujours le même, qu'il soit technico-tactique, sans danger pour le boxeur, parce qu'il y a un âge quand même, on se met en danger. Et logiquement, ça devait marcher.
D'accord. Et est-ce que maintenant, on peut vous imaginer peut-être aller essayer de combattre en Afrique ou dans d'autres endroits? Quelles sont un petit peu les prochaines échéances?
Moi, je ne l'ai pas accompagné. C'est parce que je n'étais pas dans le contrat.
D'accord.
Les prochaines échéances, moi, je dis que c'est déjà bien d'avoir été champion du monde. Après, je ne sais pas, parce que je ne suis quand même pas dans la tête de Majoub, ce qu'il veut faire. Je sais qu'il a encore plein d'ambitions.
Et plein de jus, surtout. Plein de jus.
Mais comment je vais dire, les années passent. Après, il ne faut pas que ce soit aux dépens d'une certaine santé. Moi, c'est avant tout ça, le message. Faut pas oublier que moi, regardez, j'ai plus de 70 ans, je gagne encore des concours. France, Europe, pompe, traction. Mais je mets plus les gants. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont trouvé un méningiome dans le cerveau. Donc, à un moment donné, il faut être vigilant. Parce que je l'ai dit toujours, les coups ne sont pas un médicament.
Et justement, lorsque vous l'avez récupéré, il y avait déjà un gros travail à faire à ce niveau-là. Vous êtes rendu compte
qu'il avait une bonne boxe, mais moi je voulais qu'il travaille en ligne, qu'il soit technique et qu'il ne se jette pas. Il avait une boxe quand même de vaillant, d'offensif. Mais si par rapport à un offensif, vous avez une personne qui est beaucoup plus puissante, j'ai eu raison parce qu'il était plus lourd. Donc moi ce que je voulais, en gros ceux qui connaissent, travaillent. Longer les directs, travail linéaire, ne pas être touché, se désaxer, faire des pas de côté, ne pas être dans l'axe d'une réponse qui peut être décisive. Et on a travaillé énormément là-dessus. Mais il n'est pas programmé comme ça, lui. Il est programmé pour faire des coups lourds. Donc j'ai énormément de mal à déprogrammer, le reprogrammer différemment pour justement mettre en valeur sa boxe et ne pas être en danger.
Et justement, au niveau de l'entraînement, quel type de sparring partner vous pouvez lui trouver, par exemple, notamment à Évry?
À Évry, il y a énormément de bons sparring partners. Ça
peut quel type, est-ce que c'est par rapport au profil?
Déjà,
de
des plus longilignes. Moi, d'accord. Ce que je voulais, c'est qu'il travaille avec des gars de son gabarit, des plus longilignes, et aussi des rentres-dedans, et aussi des gens qui sont obligés d'aller toucher, et toujours le même principe, toucher, ne pas être touché, toujours pour avoir été touché, et qui travaille son jeu défensif.
D'accord, parce qu'en France, souvent, on a un petit peu la vision qu'en boxe, il y a beaucoup de qualités, mais qu'on n'a peut-être pas assez d'infrastructures. Vous, ça ne vous a pas posé de problème?
Non.
Vous avez vraiment eu tout ce qu'il vous fallait?
Non, parce que moi, c'était mon métier, moi.
Oui, mais peut-être pour Majoub, en tant que boxeur, est-ce qu'il y avait tout ce qu'il fallait à Évry? Parce qu'on voit beaucoup de Français, enfin, même quel que soit le niveau, parfois partir.
Il y a une belle salle à Évry.
Faire un ou deux stages à l'étranger, vous n'avez pas eu besoin?
Non, on n'avait pas le temps, on n'avait que 3 mois.
Ouais, et puis il y avait
faire stage à l'étranger, puis en attendant, il a quand même son travail.
Bien sûr.
Il y a d'autres paramètres de vie qui font qu'il faut qu'on s'adapte. Lui, il ne peut pas prendre 3 mois ou 5 mois, on va dire, d'arrêt, etc. Puis les primes, ce n'est pas des primes comme. C'est pas en millions de dollars.
Non, c'est sûr.
Là, ça serait différent.
C'est sûr.
Donc, la préparation, on l'a fait. Déjà, moi, je l'ai fait venir. J'ai regardé sa boxe, j'ai regardé son shadow. Shadow, c'est un peu la lecture qu'on va voir du boxeur. Moi, j'appelle ça l'alphabet de la boxe. Et en fonction de ça, j'ai commencé à. J'ai pas regardé les combats qu'il avait fait avant. J'ai regardé comment il était, comment il réagissait. Et en fonction de ça, on a fait une programmation. Toujours technico-tactique. Mais n'oubliez pas, il y a toujours le caractère du boxeur qui ressort.
Bien sûr.
J'ai beau, moi, vouloir faire comme ça, etc. Ça, on n'y peut rien.
Alors,
il est fougueux. Ouais. Il reste fougueux.
Mais justement, on a un boxeur qui a une très belle carrière avec beaucoup de belles années. Je me demandais, en termes de reconnaissance, est-ce que, je sais pas, vous avez déjà senti de la reconnaissance, que ce soit de la fédé française de boxe ou même du pays originaire du Maroc, si je ne me trompe pas.
Je pense que c'est à lui qui pose la question. C'est à toi qui
quel type de reconnaissance vous avez eu écoutez, que ce soit ici ou en Afrique?
Bah écoutez, moi je vais être honnête avec vous, j'attends aucune reconnaissance. Moi je me suis battu juste pour obtenir un rêve que j'ai rêvé depuis longtemps.
D'accord.
Tout le monde le sait.
Ouais.
Donc maintenant que je suis devenu champion du monde, pour moi, voilà, c'était le but ultime. J'attends pas de reconnaissance de personne. La seule reconnaissance que je dois avoir, moi, c'est celle de mon père et celle de ma mère, que Dieu leur âme. C'est pour eux tout ça déjà à la base. Et pour moi aussi. Et pour aussi rendre honneur à mon grand coach Fred.
Moi, ce que je veux, c'est important, c'est qu'après, il y a la carrière de champion, il y a l'après-carrière. Et l'après-carrière, c'est quoi? Passer des diplômes d'État, transmettre ce qu'il a appris. Moi, ce que je veux, tous mes boxeurs, je veux qu'ils passent des diplômes, parce qu'à la limite, comme ça, il y a des BPJF, il y a plein de diplômes, que ce soit en foot ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être coach, s'inventer un rôle de coach, si on n'a pas une formation, une connaissance. Et je voudrais qu'ils puissent la mettre en valeur. Et c'est l'après-carrière.
Mais justement, cette après-carrière, est-ce que vous avez déjà envisagé certains projets ou vous êtes encore peut-être à penser ce qu'il y aura un prochain
combat?
Non,
parce que lui, il n'en vit pas de ça. Moi, j'en vivais de ça.
Ouais.
Oui. Et après, c'est différent.
Ou par exemple, ça aurait pu être sous forme peut-être d'une association de boxe, que vous pourriez avoir des jeunes notamment.
Ah, mais moi je le fais déjà ça.
D'accord.
Sauf que maintenant, à la retraite, comme je suis parti à 62 ans, ouais, je prends du recul, je fais que des missions, ouais, ou des stages. Je suis plus tous les soirs dans un club.
Oui, justement, voilà, est-ce que bon, on
il
peut
faut des enjeux.
Est-ce qu'on peut imaginer un camp, par exemple, où tous les deux, on pourrait organiser un camp et vous transmettriez à des jeunes, par exemple.
Non, mais ça existe déjà à Ivry, ça.
Sur le temps de vacances scolaires ou quelque chose. Ah, vous le faites
oui,
déjà
oui, mais moi, je le fais. Mais c'est les jeunes que j'ai formés qui le font.
D'accord.
Je suis pas toujours là.
Oui, bien
parce
sûr.
Que je veux qu'ils apprennent, il faut qu'ils se prennent en charge un petit peu.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Donc, si on résume, en fait, vous avez déjà un très bel écosystème, en fait. C'est-à-dire
oui,
qu'en plus de ce titre qui est exceptionnel, vous avez déjà...
Ils s'entraînaient à Faille Industries, c'est à Ivry.
Ouais.
Ils font du grappling, ils font du MMA, il y a de la boxe anglaise.
D'accord.
Des gars qui passent le prévôt et le diplôme d'État, il y a du kick, du Muay Thai. Donc, en fonction de ça. Et c'est en même temps. Tout le monde s'entraîne en même temps. Évidemment, c'est cloisonné quand même.
Ouais. Donc, très bien. Et dans cette fameuse salle, est-ce que, par exemple, vous avez peut-être d'autres boxeurs que vous voyez à fort potentiel?
Oui, mais je laisse les coachs s'occuper d'eux maintenant.
Ah,
il y a un gros potentiel.
Mais est-ce que vous avez des noms de boxeuses ou boxeuses que vous voyez comme ça
oui, je vois. Enfin, ils se font appeler Hollywood, qui s'occupent, qui est en train de former des jeunes, qui font les premiers assauts à Japi, etc.
Ouais.
Moi, j'ai des gars qui ont boxé à Miami, qui ont boxé en Tchétchénie, qui ont boxé à Moscou, qui ont boxé en Thaïlande. Mais ça, c'est avant. Maintenant, à eux de prendre le relais.
D'accord. Alors, peut-être pour notre athlète, parce que justement, à part ce titre, dans votre nombreuse carrière, si vous aviez peut-être un ou deux combats marquants à sortir pour nos auditeurs, quel combat, déjà dans votre longue carrière, quel combat serait le plus marquant? Quel combat vous pourriez décrire
Écoutez, moi j'ai eu la chance de participer à deux championnats du monde.
D'accord.
Donc pour moi, c'était une sensation exceptionnelle, une adrénaline exceptionnelle. Il n'y a que dans des championnats du monde qu'on peut connaître ça. Et j'ai eu la chance de les connaître avec un grand boxeur comme Moussa Konaté, pour qui déjà je voulais en rendre un honneur quand même. Parce que moi je voulais le remercier, déjà d'avoir fait ce combat avec moi. Il s'est donné à fond avec moi. Bon, il m'a quand même cassé deux côtes. Il est quand même un grand champion, Moussa. Donc voilà, moi je voulais vraiment lui dire merci à Moussa. Voilà, de s'être donné à fond avec moi. Moi c'est ce que je voulais. Bon, malheureusement, les deux de la boxe ont été contre lui. Ils ont été pour moi. C'était un peu mérité. Parce que moi j'ai quand même bientôt, j'ai 32 ans de carrière. Donc j'ai quand même pu unifier deux grandes ceintures américaines. Ce qui n'est pas donné à tous les boxeurs.
Quand il trône aux ans de cash, en train de me dire, ah ouais, donc ouais, ouais. C'est presque, c'est
ouais,
mon âge, presque.
Ouais, c'était long. Ça, c'est ouais. Mon âge, hein. C'était long, très long, mais on y est arrivé.
C'était vraiment minot. Hein.
Mais je voulais vraiment dire merci à mon maître, Freddy, parce que c'est en partie grâce à lui, c'est lui qui m'a pris en main. C'est lui qui m'a vraiment bien entraîné, c'est lui qui m'a vraiment bien enseigné, bien dirigé, et bien expliqué les choses. Et comme il disait souvent, tout ça, c'est là-dedans. C'est ça le plus important.
Alors ça va, on va au-delà justement de ce titre de champion du monde, parce qu'il y a, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être mieux nous expliquer, il y a un développement à faire, un partenariat, on en est où exactement justement
avec... Mais écoutez, je vais laisser la parole à Madame Cassata.
Madame Cassata, on vous écoute.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. En fait, exactement, donc Jaradi est originaire d'Épinay-sous-Sénart dans le 91.
Mm-hmm.
Je suis moi-même adjointe sur la ville de Crône dans le 91.
D'accord.
Donc, comme l'évoquait votre chroniqueur tout
Vivien.
À l'heure, Vivien, qui aime aussi le basket, faire noter. En fait, ce qui est important, vous parliez de la transmission. Ce qui est important, c'est que Jaradi est au sein du club SPB Fight aussi, qui est sur Épinay-sous-Sénart, Épinay et Quincy, et qui a une volonté justement de l'étendre sur le territoire, donc du Val d'Hier, Val de Seine, qui n'est pas très loin d'ici, un département voisin en confluence. Et à ce titre-là, ce sont des personnes comme Jaradi.
Ah, là, on vous appelle déjà pour aller organiser un événement, apparemment.
Mais vous avez anticipé.
Bah oui, là, c'est voilà, vous êtes déjà. C'est ça, c'est. On a parlé, voilà.
Ben on espère, en tout cas, c'est dans les projets, justement, Maître Lépine en parlait, c'est dans les projets, il y a un après. Il y a championnat du monde, champion du monde, et il y a un après. Et l'idée, c'est de justement, l'idée de Jaradi, c'est de justement transmettre à travers les clubs, dans un encadrement, les valeurs de la boxe, et de pouvoir permettre, de par son parcours atypique, qu'il est complètement, de pouvoir transmettre justement aux jeunes d'aujourd'hui et de continuer à leur dire que tout est possible et de continuer à croire en leurs rêves. Et en tant qu'élu, je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à cloisonner, à lisser, à faire des parcours. Et il faut justement laisser la porte ouverte à tout le monde et à tous ces jeunes, quel que soit le sport. Voilà.
Justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de son parcours? Vous dites, voilà, parcours atypique, c'est vrai. Quel est votre ressenti, vous, par rapport à ce qu'il a accompli?
Moi, je suis toujours admirative de ce genre de parcours, quel que soit le sport, parce que plus le parcours, plus la route est sinueuse, plus ça démontre de cette envie et de cette capacité à rebondir. Alors, comme tout le monde, on rencontre des écueils. Et puis, ensuite, on se dit, quand on nous met des pierres, qu'est-ce qu'on en fait? On monte des murs ou on construit un pont? Pour reprendre une belle citation qui me plaît, ben je pense qu'il est en train de construire des ponts dans l'après championnat du monde et c'est tout ce que je lui souhaite.
Très bien. Eh ben, justement, en termes de ponts, ce serait forcément avec la nouvelle génération. Peut-être, est-ce que vous avez peut-être un rêve un jour, tous les trois, de voir peut-être un athlète olympique qui serait formé par vous, par vos étudiants? Est-ce que peut-être c'est pas ça le rêve un petit peu, de voir quelqu'un qui serait formé par vous, qui deviendrait champion olympique de boxe par exemple?
Alors moi je laisse la parole aux experts coach, et aux coachs, bien entendu.
Est-ce que c'est pas ça un petit peu le rêve de...
Actuellement, le Muay Thai est rentré au JO. Mais prochain, pas celui-là.
Oui, pour aller à 2028.
Voilà. Ouais. Donc, mais il faut pas oublier qu'une fois, après c'est les JO, moi je peux lancer quelqu'un, le faire monter France, Europe, etc. Mais après, il est pris en charge par la fédération.
Oui, mais s'il gagne, il vous sera reconnaissant d'une certaine façon.
Bon, c'est vrai que l'Olympisme, c'est quelque chose qui restera magique, mais c'est bien de tenter le coup, parce qu'après, on a plus... Il n'y a que ça qu'on n'a pas eu, en gros, moi.
Ouais, bah voilà.
J'ai été champion de MMA.
Exactement.
Il a quand même signé à l'UFC, même s'ils n'ont pas fait une grosse carrière. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est un autre challenge. Mais on n'en est pas là, alors, quoi.
Et maintenant, justement, par rapport à notre boxeur, maintenant que vous avez cette ceinture, comment est-ce qu'on se fixe de nouveaux objectifs quand on a obtenu cette fameuse ceinture mondiale?
Écoutez, moi, j'ai pas d'objectif. Moi, je suis là pour remettre mon titre en jeu. J'ai peur de personne. Il y a pas de souci. Un champion cache toujours un autre. Donc moi, je suis là pour laisser la chance aux autres. Je suis pas comme certains qui vont aller dormir six bois avec leur ceinture en attendant qu'on les appelle. Moi, je tire n'importe qui. Il n'y a pas de problème.
Donc là, vous seriez prêt dès 2022 à
remettre mon titre en jeu, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à laisser ma place à quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Du moins, s'il arrive à me battre sur le ring.
Bien sûr.
Ouais. Moi, j'ai peur de personne et je suis là. Et le titre, je le garderai. Et personne ne me le prendra. Moi, je vais vous expliquer une chose. Moi, ma vie, elle se résume... J'ai 32 ans de boxe. Moi, ma vie, elle se résume à un bâtiment de 32 étages. Il y a des boxeurs qui ont pris l'ascenseur pour monter ce bâtiment. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils sont descendus aussi vite. Moi, à chaque étage, j'ai mis un an pour les monter, pour arriver au summum et pour avoir cette ceinture.
Okay, tant qu'on voté. C'est dommage que nos auditeurs ne puissent pas l'avoir, parce qu'elle est vraiment très très belle.
On est sur Facebook, il l'avait aussi.
Ah, bon, ça.
En tout cas, personne ne me prendra ce titre. Il est à moi, je le garderai. Et surtout pour remettre le pied.
N'oublie pas, elle est à toi, cette ceinture.
Ouais.
Mais moi, je le dis toujours, c'est
important. Elle est à Beurre FM, maintenant.
Il faut savoir passer à autre chose.
Ouais, bien sûr, mais pour le moment...
Il y a d'autres défis dans la vie.
Alors, justement.
D'accord.
Coach, faut savoir passer à autre chose. Donc, du coup, quand vous dites, faut savoir passer à autre chose.
Savoir tirer sa révérence. Avec élégance. Il l'a fait avec élégance. Il lui remercie les astres et Dieu. Et après, il faut passer à d'autres choses. Trouver un autre parcours de vie.
Ou peut-être d'autres défis sportifs aussi.
Ou des vies, ou transmettre, etc. Il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. C'est pas que le combat, c'est le combat de la vie le plus important.
Merci coach, page de pub, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM. On salue Bilal qui n'est pas présent ce soir. J'ai toujours la lourde tâche d'essayer de le remplacer. Mais bon, voilà, on avance, hein, on essaie de faire au mieux. Donc
il n'y a qu'un seul Bilal et il n'y a qu'un seul Majoub. Et les niveaux champions du monde, c'est sans là, sans là pas. Et nous, alors on restera toujours des role players, comme on dira, des joueurs de substitut.
Merci Vivien pour ton intervention. En tout cas, on embrasse Bilal, tous les consultants de Time Sport ainsi que tous nos auditeurs qui nous écoutent. On continue l'interview avec notre champion du monde Majoub, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir aussi, avec merci. Ce titre.
C'est gentil, je vous remercie.
Avec ce titre en direct sur, sur Beurre FM. Alison, tu avais peut-être une,
je vous en
une
prie.
Question.
Bonsoir, j'avais une petite question. Je voulais vous demander ce cafouillage qu'il y a eu autour des 10 kilos, du poids, de la ceinture, pas de la ceinture. Est-ce que vous pensez, vous, votre coach d'ailleurs, que c'est ce qui fait que la boxe est un peu remise en question pour les prochains JO?
Bah écoutez, bon, je ne saurais pas quoi vous répondre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on avait signé un contrat au mois d'avril pour ce combat. Donc, il y avait un poids qui devait être respecté. Donc, moi, quand je suis arrivé en Tunisie pour m'entraîner de ce combat-là, j'ai appris que mon adversaire avait des problèmes de poids. Moi, personnellement, je ne voulais pas monter sur le ring parce que je suis un boxeur qui respecte des valeurs et qui a le respect de ce sport. Mais comme c'était le premier championnat du monde WBO qui est organisé en Afrique, on m'a un peu poussé pour me dire non, mais écoute, tu peux pas nous laisser comme ça, il y a 5000 personnes qui sont là, faut absolument que tu montes. Bon, bah écoutez, moi j'ai pris le risque de monter. Bon, ça s'est très mal passé un peu pour moi quand même, parce que je suis reparti quand même avec deux côtes cassées. Bon, bah moi pour la suite, il y a une réclamation qui a été déposée par à la WBO, qui a mis deux mois pour répondre. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui m'ont aidé, parce que tout s'est vu en vidéo, les preuves étaient là. J'ai eu un arrêt aussi de l'arbitre qui était totalement injustifié au deuxième round, en deuxième knockdown. Normalement, si je serais tombé une troisième fois, l'arbitre aurait dû me déclarer KO. Quand je suis tombé la deuxième fois, je me suis relevé, je lui ai mis en garde haute. L'arbitre est venu vers moi, fait le signe de la croix, m'a dit arrêt du combat. Donc quand la WBO a vu tout ça, forcément, ils sont mis de mon côté.
Coach, la question, rajouter.
Faut pas oublier que c'était en Muay Thai là, sans coup de coude, parce que les coups de coude ça ouvre, c'est beaucoup plus dangereux. Pour ce qui est de la boxe anglaise, il n'y a pas longtemps, il y avait à Évry, il y avait les championnats de France MMA, sélection pour les championnats du monde, à Dubaï. Il y avait Dominique Nato qui est là, qui s'occupe de la boxe anglaise, et qui est vraiment un grand monsieur, déjà, de par sa carrière, de par sa connaissance, et je pense que ça a un très bon président. Mais maintenant, la boxe anglaise, on n'est pas dans les ramifications et les connaissances ou les problématiques qu'il y avait peut-être avant lui. C'est vrai qu'il peut être, pour la boxe anglaise, c'est remis en question, ça serait dommage, parce qu'il y a un staff qui vient d'arriver, qui est détaché du ministère, dont Nato, etc., Lionel, Brigelin, etc., qui sont vraiment des grands messieurs. Ils ont fait un nettoyage. Mais maintenant, après, on n'est pas dans... Je suis pas dans la politique de.
C'est ça. C'est en fait justement cette question parce que le Muay Thai va arriver dans les prochains JO. Et est-ce que justement on va pas englober tout le monde, c'est-à-dire tous les problèmes de la boxe anglaise qui éventuellement pourraient gicler sur le Muay Thai? Est-ce qu'on va pas mélanger tout le monde pour éventuellement dire écoutez au niveau des arbitres c'est pas clair, au niveau de parce que là on l'a vu l'arbitre a pris des décisions un peu litigieuses.
Même le poids.
Exactement, le poids c'est ce qui est totalement scandaleux et interdit normalement. Donc les décisions prises, est-ce que on le voit, c'est pour ça que je fais le parallèle, on le voit dans la boxe anglaise, est-ce que justement dans le Muay Thai on peut aussi faire face à ces problèmes?
Il y aura forcément des problèmes, surtout s'il y a des JO. Mais je pense que ça sera à régler déjà. Il y a une fédération qui est délégataire, agrément délégataire, qui forme les gens, qui forme les arbitres, qui forme les diplômes d'État. Mais après, je pense que quand ça devient olympique, l'enjeu est tellement fort, tellement puissant, que c'est presque une géopolitique. Mais après, c'est aux fédérations de s'encadrer de gens hyper compétents. Et je pense, et c'est vrai, ça peut éclabousser. Ça, je suis d'accord.
Et est-ce qu'au JO, on aura le droit au coude ou pas?
Avec coudière.
Avec coudière.
Il ne faut pas oublier que la boxe telle qu'on la pratique actuellement, c'était créé en 1930. Ils ont pris les règles de la boxe anglaise, le roi de Thaïlande. Je suis allé 28 fois en Thaïlande. Avant, c'était la boxe ancienne sur champ de bataille. Il y avait coup de coude, coup de tête, il y avait des marteaux, il y avait frappe bas-ventre. Donc après, il y a eu tellement d'accidents, de dégâts, d'handicaps ou de décès qu'ils ont pris les règles de la boxe anglaise pour un peu codifier ça. Avec un ring, un temps de travail, un temps de repos, des gants, parce que c'était main nue, un peu ceux qui ont vu un bac, c'est un peu ça. Donc ça a évolué quand même. Mais maintenant, c'est vrai que pour la première au niveau olympique, ils n'ont pas personne intérêt à se planter. Parce que sans ça, je pense que ça laissera une mauvaise image et c'est dommage. Faut pas oublier qu'il y a quand même, c'est l'un des sports qui est le plus pratiqué au monde. Même les gens du MMA, j'ai même fait la leçon à Colombo en Thaïlande, pratique Muay Thai, mais c'est un Muay Thai adapté.
On a aussi l'exemple de Cyril Gann, qui n'était pas du tout sportif, oui. qui est passé par le Muay Thai pour ensuite finir par le MMA.
Pourquoi ils finissent par le MMA ?
Parce que c'est plus lucratif.
Parce que c'est plus lucratif. Parce que
les bourses sont belles.
Oui.
À part Bouganem, qui gagne, ça va correctement, et qui gagne aussi sur le terrain. Il a récemment perdu en plus. C'est vrai que en ce moment, le sport de combat
attire
le plus lucratif, c'est le MMA.
On dit pas qu'il y a un effet de mode, parce que maintenant il y a vraiment une fédération qui tient la route, etc., via la boxe anglaise. Mais c'est ce que veut aussi le public. Mais il y a quand même des règles. Il y a des frappes au sol, mais il y a des règles. Il y a les coudes, on doit pas taper. Enfin, c'est quand même bien codifié. Ouais. C'est plus à l'ancienne, avec les coups de tête et tout.
Free fight.
Voilà.
Merci, coach. Allez, on passe à la suite.
Time Sport. La troisième mi-temps
rapidement, l'Europa League, le FC Barcelone. On revient sur du football tenu en échec face au Napoli. Tenu en échec, voilà, le Napoli, on connaît quand même le niveau de l'équipe italienne. Et puis le Barça, Alisson, on sait qu'ils reviennent quand même de loin. Donc est-ce que c'est vraiment un résultat décevant de la part des Catalans ou bon?
C'est un résultat décevant parce que le Barça a beaucoup frappé au but, à l'instar de Ferran Torres qui rate trois énormes occasions, dont une où il est seul, son pied d'appui est loin, et il la plante trois fois au-dessus des buts. Donc voilà, on a vu un Napoli qui n'a pas énormément attaqué, surtout en deuxième période. Je crois que le Napoli n'a même pas frappé au but en deuxième période, et on a vu un Barça qui était certes qui allait de l'avant, mais ça jouait encore à la baballe, ça c'était pas assez incisif. Adama Traoré, qui jusqu'à présent a fait de bons matchs, on a vu qu'il était un peu empêtré et que dans le dernier geste c'est pas encore ça. On a vu que quand il a été remplacé par Dembélé est toujours là et toujours aussi figurant.
Justement,
il a été sifflé d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Dans quelles conditions il est rentré en Dembélé, Alisson?
Il a été sifflé, mais il a été sifflé 10 minutes. Donc,
qu'est-ce qui a fait que la bascule en 10 minutes, tu rentres, t'es sifflé, et après.
C'est magique, Dembélé. Parce que voilà, on veut en vouloir à Dembélé, mais quand une fois, deux fois, trois fois, il fait tourner la tête des défenseurs, on dit en fait, le petit, il est pas mal. On a envie de lui pardonner parce qu'on sait qu'il est fort et on a besoin de lui. Parce qu'en attaque, ça pêche au FC Barcelone, même si effectivement, dans les autres secteurs, ça se reconstruit peu à peu, mais en attaque ça pêche, donc on a forcément besoin d'un Ousmane Dembélé, c'est sûr.
Vivien,
moi je retiens un Barça de plus en plus séduisant, mais un peu fragile dans les deux zones de vérité, c'est-à-dire en attaque ça arrive pas à conclure. Torres, effectivement, il y a eu trois occasions assez nettes, et en défense encore un petit peu de fébrilité. Donc ce Barça là oui, c'est, ça va mieux, mais c'est pas gagné, hein, pour le match retour. Et moi, je sens bien Naples, moi, passer, par exemple, à domicile.
Alisson,
si le Napoli refait le même match, je suis pas certain que ça passe non plus. On a vu devant que c'était un peu fébrile.
Un peu brouillant.
On a vu Koulibaly, qui est extraordinaire, impérial d'habitude. Là, on l'a pas senti trop dans le match.
Il avait la médaille, je crois, sur lui, encore.
Je pense aussi.
Le Napoli à domicile, aussi. Je m'attends justement à une bien meilleure prestation quand même que hier ou. C'était quand même.
Je m'attends à une meilleure prestation, moi, du FC Barcelone. Voilà. On sait peut-être qu'on va mettre un Busquet titulaire avec un Pedri, avec un Frankie de Jong au milieu. Derrière, peut-être que Daniel Alves jouera aussi. Voilà, devant, on aura peut-être Adama Traoré et cette fois-ci, peut-être Ousmane Dembélé, titulaire. Donc voilà, on s'attend peut-être à une autre figure ou un autre visage du Barça pour le match retour dans l'enceinte du stade Diego Maradona. Et je pense que ça peut passer pour eux. En tout cas, c'est l'objectif d'aller chercher
cette Europa League
et de avoir une place qualificative. En Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai qu'en Liga, ils remontent au classement, donc ils sont pas si loin que ça.
Ils sont quatrième.
C'est ça. Donc, ils sont dans le bon wagon malgré tout depuis quelques temps. Mais moi, je suis persuadé que la défense du Barça, qui encaisse pour moi un peu trop de buts, fait que J'y crois pas trop, notamment pour aller chercher l'Europa League, par exemple.
On a l'habitude, on a l'habitude d'entendre le JT de Jason à 20h qui rappelle, attentif à l'émission, que Alves ne peut pas disputer l'Europa League. Hein. Il y a eu un choix qui a été fait au niveau de l'effectif.
Donc il n'a pas été inscrit. Excusez-moi, autant pour moi.
Ouais. Voilà, ça aurait donné un cas comme à la boxe et voilà, ils auraient été disqualifiés.
Oui. Coach, je connais pas le foot vraiment bien, mais de la façon dont vous en parlez, vous le faites aimer.
Merci, c'est gentil.
Une connaissance qui m'épate.
Le sport, c'est de la passion, c'est de la transmission, ce sont des émotions. Et nous, on est un peu des privilégiés de pouvoir partager ça à nos nombreux auditeurs de Beurre FM.
C'est de le commenter, d'en parler.
C'est un peu ça.
C'est très pointu, c'est très ciblé, c'est d'une intelligence extrême.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport, le mode pressing.
Rapidement, que pensez-vous du LOSC qui va affronter Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui reçoit le Football Club de Metz? Est-ce qu'on peut s'attendre à un exploit de nos amis nordistes?
Contre Chelsea?
Chelsea.
Non, le LOSC, c'est malheureusement bien trop fébrile pour aller affronter Chelsea. Il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, on n'aurait pas eu ce discours-là. Mais là, voilà, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Dans le foot, on le sait très bien. Et là, c'est beaucoup trop fébrile pour espérer quelque chose à Chelsea.
On n'y croit pas?
Non, c'est trop irrégulier cette saison. On n'est clairement plus dans la dynamique du LOSC de l'an dernier qui avait été champion de France. Le coach différent, même la dynamique.
La dynamique trouve que est différente.
Après, parce que s'il faut miser quoi sur un exploit de Ben Arfa, enfin. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi? J'essaie de trouver des petits facteurs comme ça.
Comme ça, contre Chelsea ou ce soir?
Ah ben non, mais contre Chelsea.
Ah, okay,
oui, c'est parce qu'il nous a posé la question, c'est en Coupe d'Europe. Bon, ben ce soir, s'il le fait, c'est bien aussi, non? Ah, voilà, il peut avoir un éclair comme ça, mais sur deux matchs contre Chelsea, non, c'est. Franchement, je vois pas comment Lille pourrait passer au bout de 180 minutes, moi, contre Chelsea.
Ça va le faire.
Non, c'est.
Comme quoi, dans le football, tout est possible, on sait jamais, pourquoi pas? Pourquoi bah, pas le LOSC, on n'y croyait pas dans la poule, et le LOSC a plutôt fait.
A fini premier de la poule.
Campagne avec des matchs retour quasi parfaits.
Franchement, Lille qui finit premier et Paris qui finit deuxième de la poule,
c'est
ça.
Incroyable, non, mais
personne n'aurait misé sur ça.
Non,
donc,
mais c'est pour ça que quand on est sorti des phases de poule, on voyait Lille un peu plus beau qu'il ne l'est. Mais cette saison, et là encore, à l'heure où on parle, c'est beaucoup trop irrégulier et fébrile pour espérer quoi que ce soit à Chelsea. Maintenant, sur deux matchs, on ne sait jamais. Vu que la règle du but à l'extérieur a changé, on peut peut-être faire quelque chose.
Merci Alison, merci Vivien. J'ai une toute dernière question à vous poser. Kylian Mbappé doit-il rester au Paris Saint-Germain?
Bah évidemment que oui. Franchement, je ne sais même pas pourquoi Alison elle hésite, mais bien sûr.
On a envie qu'il reste, mais est-ce que c'est ce que lui veut? Elle est là la question.
Bah, je crois que généralement qu'il était à 99% dans sa tête à Madrid, mais. Peut-être, je sais pas, c'est. En fait, j'aime bien que cette confrontation. Moi, je croyais que le tirage au sort, il était positif, peut-être pour mettre un peu le doute dans sa tête et un peu foutre le bordel.
Non, au contraire, je pense qu'il va faire une grosse presta et éliminer Madrid pour que quand il va aller du côté du Santiago Bernabéu, il dise, hey, les gars, vous avez vu, on respecte, moi, à Paris. Donc ici, je suis venu et pas faire figuration.
Je rappelle pour terminer que la garde rapprochée du Qatar est venue à Paris pour lui proposer un contrat.
Il y a Nicolas Sarkozy aussi.
Ouais, tout le monde est venu.
Emmanuel
Macron aussi s'en est mêlé.
Bientôt, on aura le conseil scientifique. Hein, ça continue,
de lui le joueur le mieux payé au monde. Merci Alison, merci Vivien, merci Majoub, merci coach, merci madame de nous avoir, en tout cas d'avoir été présente. Pour cette émission et encore félicitations, bravo pour votre titre de champion du monde. Malheureusement, ça va extrêmement vite, vous avez vu. En tout cas, on a passé un superbe moment avec vous. Merci encore à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Giovanni à la réalisation. Passez un bon week-end et profitez bien, en tout cas, de vous. On se retrouve semaine prochaine, 20h-21h.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.